Merci d'être sur Collins ce dimanche matin, il est 10h.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Nous sommes le dimanche 7 décembre, Sport Matin Dimanche, présenté par Fabien Gazot, bonjour.
Bonjour Patrice, bonjour à tous en football, ce fut l'événement de la semaine, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France a été exceptionnel pour les trois clubs vendéens encore en lice, Fontenay, Les Sables et Les Herbiers, qui héritent respectivement du Paris Saint-Germain, de Rennes et d'Angers. On s'intéresse ensuite au championnat de Régional 1, avec notamment Bressuire qui a fait trembler l'ogre Trélissac et Noyobier, qui a battu Périgny en se montrant très convaincant. En basket, on débriefe la rencontre entre Cholet et Limoges. Ce samedi soir à la Meyrelle, les Choletais ont stoppé une série de défaites en s'imposant 91-88. Vous entendrez ensuite Fabien Catelli, le nouveau coach de Choret, encore battu hier soir par Nord Alsace. En course à pied, les foulées du Téléthon de la crèche avaient lieu hier et on s'intéresse également aux bosses de Saint-Paul qui ont lieu dimanche prochain. Et puis on parle de badminton avec le président du comité départemental de Bressuire, Damien Provost.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
En football, en Ligue 1, Nantes a perdu hier après-midi face à Lens 2-1. Saïd a donné la victoire aux Lensois à la 81e alors que El Arabi avait répondu à Tovin en première mi-temps dans une Beaujoire qui n'a pas fait le plein pour la réception du leader. Cet après-midi, Angers joue à Nice dans un contexte de crise pour le club de la Côte d'Azur. Coup d'envoi à 15h. À l'affiche aussi cet après-midi à 17h15, Le Havre, Paris FC, Auxerre, Metz. Et puis Lorient-Lyon ce soir à 20h45. Hier soir, Paris a battu Rennes 5-0 et Toulouse a dominé Strasbourg 1-0. En Ligue 2, Le Mans a fait la bonne opération en haut du classement en battant Amiens 1-0 puisque 3 a fait un nul contre Rodez 1 partout. Saint-Etienne a perdu à Dunkerque 1-0 alors que le Red Star devrait avoir match gagné à Bastia où un spectateur annoncé un fumigène sur un joueur adverse gâchant les 120 ans d'un club qui se dirige vers le national. C'est bien dommage pour le club corse. En National 2, les Herbiers ont battu Bayonne 2-0. La Roche a fait un nul à Angoulême 1 partout. Le Stade Poitevin a battu Granville 1-0. Bordeaux a dominé Dinan-Léon 2-0. Saumur a battu Locminé 3-1. Et Choret s'est incliné à Saint-Malo 4-2. En National 3, La Châtaigneraie s'est imposée à Saint-Philbert 2-1 grâce à des buts d'Hugo Baudin et de Manek Billy. Le Poiré s'est imposé à Châtellerault 3-1. Le nul entre Châlons et Chauvigny 0-0. Fontenay a été battu par l'UF Touraine 3-1. Les Sables ont battu Panazol 2-0. Ces deux clubs, Fontenay et Les Sables, ont vécu une semaine folle avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Et Fontenay a décroché le gros lot, le Paris Saint-Germain, attaquant de Fontenay. Enzo Renou assistait au tirage au sort lundi soir et nous l'avions joint mardi matin alors qu'il se trouvait encore à la gare.
C'est magique, c'est exceptionnel. Hein. Moi, surtout en tant que supporter parisien, c'est le rêve d'une vie, pouvoir parler avec eux, jouer contre eux. Nous, en tant que supporters, on paye notre place pour aller les voir et là, dire qu'on va pouvoir les côtoyer de près, c'est vraiment exceptionnel.
Supporter parisien, vraiment ?
Oui. J'étais contre PSG Liverpool, en Ligue des Champions l'année dernière, PSG Arsenal était présent lors de la demi-finale. Donc, c'est vraiment magnifique.
Bon, alors il faudra sans doute redescendre un peu pour pouvoir jouer sereinement ce match. Hein. Ça sera tout un travail mental pour vous. Hein.
Bah voilà, c'est ça. Faudra savoir rester quand même professionnel. On aura quand même des intentions de jeu. On aura un plan de jeu à respecter. Et voilà, un match, ça dure 90 minutes. On sait que ce sera très très difficile. Mais jouer contre les champions en titre et les vainqueurs de la Ligue des Champions. Parce qu'on sera la première équipe amateur à jouer contre les champions d'Europe. Donc ça aussi, il faut le savoir. Et après, bah voilà, hein, il y aura 80 minutes pour essayer d'aller chercher quelque chose et pourquoi pas créer un exploit.
Alors ça se jouera le 20 décembre. On peut espérer que les joueurs parisiens soient un petit peu la tête aux vacances, hein, un petit peu relâchés.
Forcément, hein, mais après, j'espère qu'il y aura quand même une belle opposition avec des beaux noms. Sachant que eux, ils jouent le mercredi à Doha pour la finale intercontinentale. Donc au Qatar, donc je pense qu'il y aura forcément un peu une tournure de l'effectif pour notre match, mais j'espère qu'il y aura quand même du beau monde. Après, est-ce qu'il y aura un petit peu plus de jeunes que d'habitude, et même ce sera une expérience incroyable en tant que joueur amateur de pouvoir, comme j'ai dit, côtoyer le temps d'un instant un match comme ça, c'est vraiment exceptionnel.
Alors, Enzo, si je me trompe pas, vous êtes le fils de Willy.
C'est ça.
Et Willy, il avait connu déjà une aventure extraordinaire en Coupe de France il y a une vingtaine d'années. C'est chouette hein, de reprendre le flambeau.
Ben voilà, c'est encore quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'était en 2001, j'étais pas encore né. Ils avaient éliminé Sedan en Ligue 1 et après ils avaient perdu contre Lyon en 8e de finale au tir au but. Et là, moi, pouvoir vivre ce genre d'émotion avec mon frère aussi, qui est gardien et qui joue aussi dans l'équipe, c'est magnifique, quoi. C'est une fierté.
Et le frère d'Enzo Renou, c'est Noah, la famille Renou, qui fait donc reparler d'elle 20 ans après les exploits du père Willy. À l'époque, les Vendéens, les Fontenaisiens avaient convergé en masse vers le stade René Gaillard, mais cette fois-ci, c'est la Beaujoire de Nantes qui accueillera à ce 32e de finale. Les Sables ont carrément fait le choix d'aller jouer à Rennes, leur adversaire, un choix plus contesté. En revanche, les Herbiers en habitués recevront le SCO d'Angers à domicile au stade Massabielle et ce sera le vendredi 19 décembre à 20h45. Un tirage au sort exceptionnel pour la Vendée. Nous nous sommes entretenus avec Jean-Yves Gazeau. Aucun lien de parenté. Le président du district, c'était, je le précise aussi, avant de savoir où et quand auraient lieu les matchs.
Oui, c'est exceptionnel parce que d'avoir trois clubs vendéens en 32e de finale, il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. Hein, première chose, et puis deuxième chose, tirer trois clubs de Ligue 1 et pas n'importe lesquels, puisque bon, Paris Saint-Germain c'est quand même le champion d'Europe. Rennes, bon, c'est une équipe qui est en pleine évolution là actuellement. Et puis Angers, bon, ça reste dans le secteur aussi une référence. Donc ouais, c'est exceptionnel, ouais.
Alors, avec trois clubs vendéens qui, eux, ont une approche un peu différente. Les Herbiers sont des habitués. Fontenay a déjà un vécu en la matière, oui, même oui. S'il est un peu lointain. Pour les Sables, ça va être nouveau, là.
Ben pour les Sables, effectivement, c'est nouveau. Bon, c'est un club là aussi qui a peu d'existence parce que bon, il résulte d'une évolution dans le secteur des Sables et donc de la fusion d'un certain nombre de clubs. Donc c'est vrai que leur histoire est courte, mais bon, pour eux, c'est une belle aventure, une belle découverte, ouais. Ouais. Et puis c'est un coup de boost aussi pour ce secteur. Ouais.
C'est la particularité de la Vendée qui a beaucoup de clubs en N3, N2, mais on n'arrive pas à aller plus haut pour le moment.
Effectivement, la Vendée est un territoire dynamique au niveau du football dans chacun des secteurs, puisque au niveau du district, on avait partagé le secteur donc en 6. Dans chacun des secteurs, il y a une locomotive. Voilà, donc deux clubs en N2, 5 en N3. Bon, il y a un dynamisme. Alors après, bon. Effectivement, la question se pose d'avoir un club en Ligue 1 ou en Ligue 2. Il y aurait sans doute le potentiel en termes économiques, en termes de spectateurs. Oui, il y aurait sûrement le potentiel. Après, bon, vous savez aussi bien que moi, ça se décrète pas comme ça d'un claquement de bois. Il faut qu'il y ait une volonté collective. À la fois du mouvement politique, du mouvement économique, du mouvement sportif. Bon, après, on peut s'interroger aussi, quand on voit un petit peu ce qui se passe sur les autres territoires voisins, où ils ont un club en Ligue 2, un club en Ligue 1, mais autour, c'est compliqué pour les clubs d'exister. Donc, voilà, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaité? La question va se poser.
Ouais, parce qu'effectivement, hein, d'avoir des clubs niveau N3, N2, ça permet aux jeunes du cru d'émerger aussi.
Absolument, tout à fait. Voilà, ça permet aux jeunes d'émerger, ça crée encore une fois un dynamisme sur le territoire. Ça rassemble, ça. Bon, enfin voilà quoi. Donc, ça fait partie des questions.
Bien, en attendant, il y a ce 32e de finale.
C'est un coup de boost pour le football vendéen, quoi, pour tous les licenciés, pour tous les jeunes licenciés. Bon, de pouvoir côtoyer donc l'élite du football français sur notre territoire, c'est extraordinaire, quoi. Donc voilà, que chacun en profite. Moi, je souhaite aux joueurs et aux clubs d'en profiter parce que ça fait partie des choses qui arrivent pas enfin, qu'une fois dans sa vie. Alors il faut le savourer, quoi.
Jean-Yves Gazeau, président du district de la Vendée, après cette incroyable semaine marquée par le tirage au sort de la Coupe de France. À propos de tirage au sort, vous avez sans doute pris connaissance du groupe de la France au prochain mondial aux États-Unis, Canada, Mexique. Les joueurs de Didier Deschamps affronteront le Sénégal, la Norvège et un troisième adversaire issu d'un barrage entre l'Irak, la Bolivie et le Suriname. Trois matchs de poule à jouer à New York, Philadelphie Et Boston, on revient de ce côté de l'Atlantique, en Régional 1 Nouvelle-Aquitaine. Thouars a fait un nul à Busserolles 2-2. Les Thouarsais étaient menés au score et sont revenus à la 85e, mais pouvaient presque espérer mieux. Partenay Limoges 3 partout, là aussi Partenay revient au score en toute fin de match. Noyobi a battu Périgny 3-0, victoire logique de Noyobi avec deux buts de Traoré, toujours intenable, et un de Oblé, un succès qui aurait pu être plus large sans deux pénaltys manqués par Traoré et Courdan, un poteau de Lavaux également et une barre de Courdan, une très belle prestation collective de Noyobi et Périgny. Seulement présent pendant 15 minutes en début de deuxième mi-temps, mais sinon dépassé dans le jeu. Écoutez la réaction de Sébastien Cuvier au micro hier soir de Laurent Guichetot.
On a retrouvé une équipe soudée. J'avais demandé à la causerie que voilà, face à cette belle équipe de Périgny qui reste sur une dynamique impressionnante quand même depuis le mois de septembre, on peut perdu la Coupe de France, qu'il fallait être soudé, qu'il fallait être volontaire, qu'on retrouve un peu le nouvel objet qu'on connaît à domicile. Voilà, ils ont écouté les consignes, parce qu'on sortait quand même sur une prestation pas bonne contre Partenay, une prestation à Neuville, voilà. Non, je suis content des garçons sur les efforts qui ont été faits, 3-0, on loue quand même, un peu tôt, on loue quand même deux pénaux. Ça aurait pu corser un peu plus l'addition, mais bon, dans l'ensemble c'est une bonne première partie de saison, une bonne.
Ouais, puis en plus dans le contenu surtout.
Ouais, voilà, les équipes comme Périgny qui jouent au ballon nous permet aussi d'évoluer comme ça. Alors je veux pas critiquer les autres équipes, mais voilà, c'est une équipe joueuse, elle fait 3-0, on avait pris 3-0 match retour l'année dernière. Ah non, il fallait surtout pas, parce que c'est mon partenaire, voilà, j'avais un petit peu les boules. Et c'est vrai que dans le contenu, c'était bien, c'était intéressant. Voilà. Donc, non, c'est bien.
Sébastien Cuvier au micro de Laurent Guichetot. Hier soir, et avant d'aller plus loin, je corrige une petite erreur. Le président du district de foot de Vendée, c'est Jean-Jacques Gazot et non pas Jean-Yves. Je me suis trompé dans le prénom, j'ai dû me laisser distraire par son nom de famille, sans doute. On revient en Régional 1 avec la défaite de Bressuire hier soir à Trélissac. 2-1, les Bressuirais ont mené chez le leader grâce à un but de Barque à la 20e minute, mais Trélissac est revenu à la 73e avant de prendre l'avantage à la 82e. Écoutez la réaction de Damien Charron enregistrée ce matin, le coach du FC Bressuire.
C'est surtout de la frustration, encore ce matin d'ailleurs. Beaucoup de frustration parce que je pense qu'on a fait le match quasi parfait face à ce type d'adversaire. Dans un registre forcément qui est un petit peu moins le nôtre, parce qu'on a été... On a été obligé d'être un peu plus solide sur l'aspect défensif, alors qu'habituellement on est souvent un petit peu plus dans la possession, la maîtrise du jeu. Donc c'est un registre qui était un petit peu différent pour nous, comme ça a été le cas sur certains matchs aussi précédemment. Et du coup on a été extrêmement vigilants, concentrés, rigoureux. Il y a même, je pense, que des joueurs que j'avais pas forcément encore vu à ce niveau-là, et donc on était quasiment sur le match parfait, et pour qu'il le soit, il aurait fallu qu'on soit encore un tout petit peu plus efficace pour mettre ce deuxième but qui nous aurait mis, je pense, à l'abri pour cette fin de match.
On est début décembre et Trélissac s'envole encore un peu plus. Il va falloir rester mobilisé. Ça va être une difficulté dans les prochaines semaines, prochains mois.
C'est une difficulté si l'objectif était de monter, ça c'est sûr. Après, comme je l'ai déjà dit aussi, l'objectif pour nous c'est de faire la meilleure saison possible en étant mêlé à ce haut de tableau. Aujourd'hui on y est, donc après la saison elle est encore longue. On verra ce qui se passera, pour cette équipe de Trélissac, pour les équipes qui nous entourent aussi, qui sont performantes, qui font des bons résultats. Je pense à Neuilly, je pense à Périgny qui revient, Limoges qui est en très grande forme aussi. Donc ça va être un championnat difficile, il reste encore une quinzaine de journées, donc on verra après ce qui va se passer, mais effectivement pour la première place en tous les cas, Trélissac là fait un coup incroyable, et d'ailleurs une saison, un début de saison admirable. Donc on verra par la suite.
11 matchs, 11 victoires pour Trélissac dans cette poule, dans ce championnat de Régional 1 en Nouvelle-Aquitaine, en Pays de la Loire. Le nul de Pouzauges hier soir contre le Poiré, 2 partout. Régional 2, poule A, à Thouars a battu Avenir 79, 2-0. Chorey s'est imposé à Dompierre-sur-Mer 5-2, et cet après-midi, Cerizay joue au stade Poitevin dans la poule C de R2 cet après-midi. Niort-Saint-Liguer accueille La Rochefoucauld, pas mal de matchs reportés hein, ce week-end en raison de l'état des terrains rendus impraticables par les conditions climatiques. Vous ne serez pas étonné donc d'avoir moins de résultats qu'habituellement. Régional 3 dans la poule A, Hervaux-Saint-Join a battu Busserolles 1-0. Cet après-midi, Interbocage FC Rethet, Le Talus contre FC Otis et Bressuire OSC Toircet dans la poule B de R3. Hier soir, Aubin-Hortais s'est imposé à la Palisse à 4-0 et cet après-midi, Saint-Sauveur se déplace à Châtellerault dans la poule E de R3. La défaite du Pays-Mélois contre Usson-Lille 4-0. La victoire déchirée Saint-Gelais à Selverine 3-1 chez les féminines. Bressuire joue à Limoges cet après-midi en départemental 1 à l'affiche cet après-midi en principe Niort-Saint-Florent, Pays-Mexantaine, Veil-Aubier, Parthenay, Saint-Serbouillet contre Saint-Aubin-le-Clou et Thouars contre Saint-Liguer. Dans la poule nord de D2, Cerizay et Gatifoot ont fait un nul un partout cet après-midi. Aubin-Hortais contre Vrère-Saint-Léger, Maucoutan face à Beaulieu-Breuil et Voulmentin contre Pays-Tenzéen. Dans la poule sud de D2 à suivre cet après-midi, là aussi en principe, Avenir 79 contre l'Union à sud de Sèvres, Choray contre Beauvoir-sur-Niort et FC Otis. Le Talus pour ce championnat de district, district qui a connu une semaine difficile avec la disparition de Gilles Baudouin, licencié à l'US Pexinoise et membre du district depuis 2000. Passionné, il était un pilier de l'instance départementale qui lui a rendu hommage, président de la commission sportive durant de nombreuses années. Gilles Baudouin s'est dévoué sans relâche au développement du football sur le territoire avec sérieux, exigence et une générosité rare, soulignait le district. Il avait à plusieurs reprises orchestré les tirages au sort des coupes ici même dans le studio de Colline et on se joint donc à l'hommage rendu par le district à l'annonce du décès de Gilles Baudouin.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Vous écoutez Colline, merci d'être avec nous. La suite de Sport Matin dimanche avec Fabien Gazou.
Et le sommaire de cette deuxième partie en basket, on débriefe la rencontre entre Cholet et Limoges. Hier soir à la Meyrelle, les Choletais ont stoppé une série de défaites en s'imposant à 91 à 88. Premier contact ensuite avec Fabien Catelli, le nouveau coach de Choray, encore battu hier soir par Nord-Alsace. En badminton, on parle de ce sport avec le président du comité départemental, le Bressuret, Damien Provost. Et puis en course à pied, on s'intéresse aux foulées du Téléthon de la Crèche qui avait lieu hier et aux bosses de Saint-Paul qui ont lieu dimanche prochain.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Et avant de se réfugier en salle pour évoquer le basket, le hand et le volley, un mot, deux, trois mots de rugby en Champions Cup. La Rochelle a battu Leicester hier 39-20, une victoire probante avec 6 essais pour les Maritimes avant d'aller défier les Stormers en Afrique du Sud. En National, Niort s'est incliné à Bourg-en-Bresse 26-13. Les Niortais avaient bien démarré et menaient 6-10 à la mi-temps, mais ont flanché et fauté en deuxième à l'image du carton jaune du capitaine Baudin à l'heure de jeu qui a fait basculer le match en faveur de Bourg-en-Bresse. En Fédéral 3, Parthenay joue à Puy-le-Borreau, Choray en déplacement à Sestas. En Régional 2, Nouvelle-Aquitaine, le COP 79 sur le terrain de la RC Bayargeois. Et puis en R2, Pays de la Loire, Thouars accueille Ancenis. Le basket, donc, comme promis, et la victoire de Cholet hier soir contre Limoges, 91-88. Une victoire qui fait du bien pour les Choletais, mettant fin à une spirale de défaite. Les joueurs de Fabrice Lefrançois sont allés la chercher, cette victoire, en deuxième mi-temps, et le coach était très fier de ses joueurs au micro de Jérémy Maginot.
Le truc le plus important, c'est que je suis très content pour les joueurs, en fait. Ils ont fait des efforts incroyables, ils ont été vraiment dans ce qu'on attend d'eux, dans le dépassement de soi, dans l'abnégation. Je sais que les gens regardent avant tout le résultat, mais aujourd'hui, c'est surtout ce qu'ils ont fait, moi, qui me rend fier, en fait. Je suis très content de ce qu'ils ont fait et encore plus content que ça soit validé par une victoire. J'ai beaucoup aimé le caractère. Quand t'es à moins 9, en troisième, que tu rates des choses simples, c'est pas facile. TJ nous a remis sur la voie, Keshen aussi, Nathan aussi, enfin tous, GG, je parle même pas de son match bien évidemment, mais tous collectivement. Et puis Et puis je suis content à plusieurs titres. Je suis content pour Deandre qui, depuis qu'il est arrivé, il fait tout pour aider l'équipe, que ce soit sur le plan basket, mais aussi sur le plan humain. Voilà, je suis vraiment content pour les gars, en fait.
C'est ça. Qu'est-ce qui fait, là, peut-être pas que le match bascule en votre faveur ?
Je pense qu'il y a une partie un peu d'usure, quand même, qui a été provoquée, parce que depuis la première seconde, on propose un basket intense. Il y a une partie aussi grinta, j'ai trouvé, parce que Nathan, il met de la... Enfin, quand il va chercher les paniers plus hauts, quand TJ, met des paniers clutch, etc., c'est... Moi, j'ai trouvé de la grinta, quoi. Et puis, cette dissuasion, on a mis des contres. Il y a eu des actions qu'on fait basculer. Là où ces derniers temps, on avait des actions qui faisaient basculer dans l'inverse, c'est-à-dire on ratait un petit lay-up, on ratait... On aurait pu mettre plus de points. Il y a eu quand même une espèce de fébrilité liée aux attentes, en fait, parce que ces derniers temps, on gagnait un peu moins.
Fabrice Lefrançois citait notamment Gégé, Gérald Ayahi en forme internationale, All-Star, capé en bleu. Il soulignait la force de caractère de son équipe au micro de Vincent Nori.
La force de caractère, je pense qu'on a, on a su reconnaître la situation dans laquelle on était. Je pense que c'était 6 minutes, on était à moins 5, moins 6. Et on a su faire preuve de caractère et la chercher à domicile. Je pense que c'était la force de ce match, c'était de pouvoir le jouer à domicile contre une équipe de Limoges qui a été très très accrocheuse. Je pense qu'encore une fois, on a cru en notre plan, on a cru au process, c'est-à-dire d'user les adversaires petit à petit. Et c'est ce que ça donne, c'est-à-dire que sur la fin, sur des fins de match, c'est là où on prend l'avantage. Donc vraiment, vraiment ravi parce que je pense qu'il fallait qu'on retrouve de la confiance, de la confiance dans le jeu qu'on pratique, dans le jeu qu'on propose, et c'est chose faite avec la victoire ce soir. On a un petit avantage en plus, c'est le public, donc faut savoir l'utiliser. Je suis content qu'on ait su l'utiliser, je suis content de voir que la mairie, malgré nos résultats difficiles, a répondu aussi présente, et ça nous a donné justement ce caractère, cette petite énergie en plus qui nous permet de finir le match fort, ce qu'on avait du mal à faire d'habitude.
Tu ne peux pas occulter ta performance, Gérald. Encore des stats super.
Oui, bien sûr, je suis satisfait. Mais encore une fois, je pense que c'est justement c'est le jeu qu'on propose. C'est mes coéquipiers qui vont faire les bons mouvements autour de moi parce qu'ils me connaissent bien, qui me donnent les ballons quand il faut, qui me permet justement d'être efficace. Je pense que mon rôle, c'est maintenant d'emmener les coéquipiers avec moi. Et je suis content d'avoir pu le faire ce soir. Je pense que j'ai encore du travail sur ça, sur le leadership. Mais ça vient petit à petit. Ils sont au courant, ils m'aident et on avance. Je suis quelqu'un de très, très exigeant, mais c'est ce que me répète souvent ma famille, qu'il y a des moments comme ça, il faut savoir en profiter, parce que c'est ces moments comme là qui vont nous porter dans les moments un peu de creux. Donc je profite au maximum avec ma famille, ma copine, c'est des moments, comme vous dites, c'est beaucoup. Il faut faire attention à notre plat d'émotions, c'est pour ça que j'essaie de rester concentré sur la suite, sur mes matchs, sur ce que je peux améliorer, mais j'essaie de profiter au maximum.
Cette fenêtre internationale, tu nous racontes, c'était bien ?
Vraiment bien, une très très belle expérience, très belle expérience. Je pense que d'un côté j'étais peut-être un peu frustré de l'apport que j'ai pu avoir, mais d'un autre côté une superbe expérience parce que j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup appris. J'ai vu c'était quoi le niveau supérieur, j'ai vu c'était quoi l'exigence que je devais avoir tous les jours si je voulais performer à un niveau comme ça à l'avenir. Donc pour moi c'est que du plus parce que je repars avec un bagage vraiment incroyable et une exigence maintenant d'avoir un peu goûté au plus haut niveau, de vouloir y retourner et maintenant pour performer. Donc on va y aller petit à petit, mais maintenant j'ai la feuille de route.
Gérald Ayahi au top et Cholet qui retrouve donc la victoire hier soir face à Limoges, 91 à 88. En élite 2, la victoire de La Rochelle à Aix-Maurienne, 69 à 68. La défaite de Nantes à Rouen, 101 à 77. Et Chalon qui s'incline face à hier Toulon, 73 à 83 cet après-midi. Poitiers joue à Blois. Wonder League, La Roche Vendée a battu Lyon, 70 à 66. Angers battu par Charnay, 84 à 91. En National 2 féminine, Choret a été battu par Nord-Alsace, 46 à 76. Face à une équipe qui fait la course en tête, la première victoire n'était pas forcément attendue hier soir, mais on avait envie de connaître le ressenti de Fabien Catelli, le nouveau coach joint ce matin.
C'est une défaite qui fait mal parce que c'est notre premier match à domicile et on perd de 30 points. Donc si on regarde que le score, c'est vrai que les têtes étaient un petit peu basses là hier soir. Mais si on analyse un petit peu la performance, c'est pas si dramatique que ça. On n'encaisse que 76 points face à une très belle équipe d'Agno. On encaisserait Espagne à 3 points, donc ouais, ils font preuve d'une belle réussite. Donc voilà, ça c'est des points un petit peu positifs. On fait une deuxième mi-temps plutôt correcte défensivement, sachant qu'on encaisse 47 points à la mi-temps. Donc voilà, et après offensivement, plus compliqué, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Nos lignes arrières ont eu du mal à se passer le ballon sur les premiers temps de nos principes offensifs. Et du coup, ça nous a très vite mis en difficulté. Mais voilà, il y a de bonnes choses. Comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui était très très compliquée à aborder, vous le savez. Donc voilà, il faut essayer de tirer le positif et continuer à avancer.
Oui, alors la capitaine Fatou Dieng disait hier soir, on a encore beaucoup de travail, mais on y croit du côté de Choret.
Ouais, complètement. Ouais, il y a du boulot, mais on y croit parce que clairement, c'est pas les équipes qu'on a ciblées. Je pense que toutes les équipes sont pas du niveau de Nord-Alsace. Donc voilà, on va prendre notre mal en patience, on va continuer à travailler. On a des axes de progression qui sont quand même énormes. Et c'est sur ces axes de progression-là qu'on avait déjà ciblé avant, qu'on a été dominé hier. Donc on se dit que si on arrive à gommer 2-3 erreurs et à progresser surtout offensivement dans le partage de balles, voilà, on pourra performer dans les prochaines semaines.
Alors, on l'entend, Fabien, vous êtes sur la route, puisque vous allez à Anglet, hein, je crois, cet après-midi, pour jouer avec les U18 de La Rochelle. Alors, vous êtes leader, et Anglet, c'est juste derrière. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais. Là, on va jouer le dernier match de la première phase. Donc, normalement, le résultat ne devrait pas impacter le fait qu'on aille en poule route. Donc, ça, c'est le point positif. Après, voilà, si on va jouer la première place... C'est un petit peu anecdotique là sur cette première phase, mais voilà, on va essayer de tout faire pour terminer la phase d'aller sur une victoire, même si on part qu'à 8 parce qu'on a deux jeunes qui sont partis avec la nationale de hier soir.
Alors les week-ends et les semaines sont bien occupés pour vous en ce moment?
Oui, complètement, ouais, mais bon, c'est un métier passion, donc on sait que on est dans une période haute, la période du championnat, après le mois d'avril, là ça va se calmer. Donc voilà, après les deux entités me permettent de pouvoir associer les deux. Il n'y a pas de créneau qui se chevauche. On a plutôt de la chance en termes de calendrier, vu que les gros déplacements avec Choret ont lieu pendant les vacances scolaires sur des week-ends où il n'y a pas de match avec le Stade Rochelet.
Fabien Catelli, coach de Choret Basket, donc depuis quelques semaines maintenant, il cumule avec un poste de coach également chez les U18 filles de La Rochelle. En National 2 masculine, toujours en basket, l'AS Niort a été battu par Garonne à 62 à 65. Belle résistance quand même pour les joueurs de Laurent Hay. En pré-national féminine, Bressuire joue Étré, Choret contre la SPTT Limoges cet après-midi. En R2 féminine, le Pays Argentonais s'est incliné contre Saujon à 77 à 49. En R3 féminine, Saint-Jean-Bouilletoire a battu Ciré à 53 à 45. Cet après-midi, le BC Cerisien reçoit Parthenay et La Rochelle Tadon accueille Effre. En R3 masculine, Bressuire s'est imposé à Châtellerault à 68 à 70. Toutes les rencontres du réveil bressuirais sont précédées ce week-end d'une minute d'applaudissement en hommage au jeune El Henry, tragiquement disparu le week-end dernier à l'âge de 17 ans dans un accident de voiture à Béziers. On en a parlé dans les infos. Un garçon rayonnant, solaire, très impliqué au sein du réveil. Joueur, coach, il laisse un vide immense. Handball en National 2 masculine, Pouzauge a battu Handaï 33 à 24. En N3 féminine, la lourde défaite de Praec à Saint-Junien-Rochechouart, 42 à 15. En National 3 masculine, l'Entente Niort-Aglo joue cet après-midi à Saint-Cyr. En volley en National 2 féminine, le VBPN reçoit cet après-midi le Sporting Club de l'Ouest. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la troisième partie.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
La suite de Sport Matin Dimanche en ce 7 décembre avec Fabien Gazot.
Et on ouvre, Patrice, un chapitre sport de raquette. L'Aglo de B, la ville de Bressuire et les clubs partenaires, le tennis, le squash et l'entente pongiste ouvrent les portes du nouveau complexe dédié au sport de raquette Alkena le samedi 13 décembre, samedi prochain de 9h. À 18h au lendemain de l'inauguration, cette journée permettra au public de découvrir un équipement rénové, modernisé et désormais tourné vers les pratiques en plein essor avec l'aménagement de 4 terrains de paddle et 2 terrains de pickleball. Le complexe élargit son offre sportive et répond à l'engouement croissant pour ces disciplines ludiques, dynamiques et accessibles à tous. Les visiteurs pourront attester gratuitement à sa nouvelle pratique hein, tout au long de ce samedi 13 décembre. Mais c'est d'un autre sport de raquette dont nous allons parler maintenant avec Damien Provost, président du comité départemental de badminton. Le Bressuirais évoque au micro-colline de Dominique Cadu l'évolution du bad dans le département.
Le badminton dans Deux-Sèvres, c'est 5 clubs affiliés à la Fédération Française de Badminton. Donc à savoir le badminton Bressuirais, le badminton Neuilly-les-Aubiers, les accros du badminton Niortais, le Sam Badminton à Montcoutan et un club de badminton à Thouars aussi. Le badminton est en plein développement, c'est le premier sport scolaire en France. Donc ça aide pas mal les jeunes à se rapprocher de nos clubs. Et puis je pense aussi que l'année dernière, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques ont montré une belle image du badminton. Du coup, on surfe un peu sur cette vague d'adhésion.
Quelles sont les valeurs du badminton ?
Donc le badminton, c'est des valeurs de respect. Tous les matchs sont auto-arbitrés en tournoi de badminton. Donc dès le plus jeune âge, on apprend à respecter son adversaire, à respecter les règles, à respecter le fair play. Et je pense que c'est quand même les choses les plus importantes sur nos compétitions.
Alors le badminton, vous en avez parlé, il y a 5 clubs. Pourquoi il est avant tout centré sur le bocage ?
Je sais pas, historiquement dans le nord de Sèvres, il y a des clubs qui se sont développés, qui se sont bien structurés et qui continuent à bien vivre. Après, faut pas oublier le club à Niort aussi, qui est quand même s'il est un peu plus excentré, le plus gros club du département.
Vous avez été joueur et vous l'êtes encore à Bressuire, vous avez été entraîneur, vous avez même été président du club de badminton. Cette motivation, vous la trouvez où ?
Je sais pas, avant tout c'était un plaisir et puis l'envie de se rendre utile pour le club. Puis après je suis arrivé président à un moment où il fallait structurer et développer le club. Après on a créé une école de badminton, je me suis retrouvé entraîneur. En fait c'est pas des vrais choix, c'est au fil de l'eau, je me suis laissé emmener et puis après c'est un vrai plaisir.
Quels sont les vœux pour le badminton en Deux-Sèvres ?
Les vœux pour le badminton en Deux-Sèvres, c'est de continuer le développement, de continuer de pouvoir proposer des interclubs qui fonctionnent, des tournois dans tous les clubs qui fonctionnent, des clubs qui attirent et qui grossissent. Et puis surtout, dans les Deux-Sèvres, on aimerait beaucoup augmenter le nombre de clubs affiliés. Donc à tous les clubs qui sont non affiliés, qui jouent en loisir, qui ont envie de s'approcher de la compétition, qui sont même déjà peut-être dans la compétition sans être affiliés, on les incite à venir nous rejoindre. On peut faire de belles choses en Deux-Sèvres si on est plus nombreux.
Damien Provost qui, lorsqu'il ne fait pas de badminton, ça donne à une autre passion, celle de la course à pied. Il vient d'ailleurs de faire 3h23 au marathon de La Rochelle, une belle perf qui nous amène naturellement à la course à pied.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Hier à la crèche près de Niort, il y avait les foulées du Téléthon, une course qui a réuni à 193 participants sur 4 et 8 kilomètres. Christophe Renaud du comité organisateur qui organise donc ses foulées, mais aussi toute une série d'animations au profit du Téléthon.
Donc 193 inscrits sur la course. C'est plus que d'habitude. D'habitude, on en a. L'année dernière, on en avait 124 et l'année d'avant, 121 ou 122. Donc on est sur une édition un peu sympa, avec un peu de monde, donc c'est plutôt bien.
Un profil de course peut être un peu compliqué ?
Un peu compliqué, ouais. Le 4 km. Ouais. Alors au début, on descend sur 1,4 km, donc tout va bien. Et après, sur le 4 km, on a deux petites bosses avant de remonter sur un faux plat montant jusqu'ici. Et sur le 8 km, il y a pas mal de bosses, ouais, c'est toujours un peu compliqué. Et une année, on l'avait fait de l'autre côté de la crèche où c'était encore plus compliqué. Donc on a la réputation sur les foulées du Téléthon d'avoir un parcours un peu sélectif.
Et sur la course, vous espérez reverser combien à peu près là, ou
On est le Téléthon de la crèche et le plus gros Téléthon dans tout le sud de Sèvres. Donc en 2023, on a reversé 18 000 euros. En 2024, 16 000 et quelques. Et cette année, on espère faire la même chose, à peu près 16 000 euros. Ça serait pas mal, 15-16 000, ça serait plutôt bien. Et puis, là, sur la course, de toute façon, on prend toutes les inscriptions, donc 193, ça fait à peu près 1000 euros.
Et le 8 km a été remporté chez les femmes par Oriane Eusé et chez les hommes par Geoffrey Le Tertre. Petite réaction d'après-course.
Comme l'an dernier, parcours toujours aussi difficile. Il faisait un peu plus beau, toujours un peu de vent, mais c'était quand même super sympa, encore une bonne course.
Ouais, on venait avec toute l'équipe en fait, donc on était plus là pour l'événement que réellement la performance, mais bon après, la forme est là, donc le parcours on le connaissait. Et puis j'ai vu que c'est parti vite et puis le trou s'est fait rapidement, donc après j'ai géré.
Geoffrey Le Tertre qui enchaîne aujourd'hui sur la Chervesienne au micro de Grégory Diguet qui ne se contente pas d'interroger les participants. Il a aussi décroché la 21e place, bravo à Greg.
Bravo.
Dans une semaine, tout juste auront lieu Les boss de Saint-Paul et certains les attendent avec impatience. Il y a quelques semaines, à l'ouverture des inscriptions, les dossards se sont arrachés en quelques heures. À une semaine de l'événement, nous avons joint Mathieu Bernier, le président des trailers Montcoutantais.
Le débroussaillage, c'est déjà fait, donc, et on va plutôt commencer le balisage sur 3-4 jours sur le chemin de Saint-Paul et la chapelle Louis.
Un gros travail de préparation, puisque le trail des bosses de Saint-Paul a la particularité d'être un vrai trail, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de bitume, et forcément, il y a un peu plus de préparation, car ce sont pas forcément des chemins de randonnée. Hein.
Oui, 95% de chemin sur le parcours, et puis oui, il y a beaucoup de passages, on a des chemins de communes et des passages privés qu'on demande aux propriétaires justement une journée là pour pouvoir y passer. Et j'en profite pour remercier aussi les propriétaires, les bénévoles qui nous aident sur cette journée là parce que c'est vrai que c'est ce qui fait donc ces passages privés que notre course est belle.
Alors on en a parlé il y a quelques semaines, les dossards ont été pris d'assaut dès les inscriptions, il a fallu faire très vite pour obtenir un dossard. C'est un phénomène récurrent dans le trail, mais vous le vivez aussi, hein.
Ouais, c'est vrai que en ce moment toutes les courses qui se passent un peu partout en France, qui dans la région remplissent vite, mais nous encore plus vite. On a été surpris. Ouais. Les 600 dossards sont partis en 5 heures, donc c'était du jamais vu, ouais, pour nous.
Alors justement, je crois que vous remettez quelques dossards en inscription ce dimanche, hein, justement.
Oui, parce qu'il en reste un peu. Bah, depuis un mois, certains ont des petits problèmes de santé, sont obligés d'annuler. Donc du coup, on en profite, essayer de faire plaisir à ceux qui n'ont pas pu avoir les dossards il y a un mois. Donc on va remettre 10 ou 15 en fonction de ce qu'il va y avoir disponible dimanche soir à 18h. Là.
Alors sur toutes les distances?
Non, que le 26-42, parce que c'est essentiellement celui-là qui avait du changement et que le 13 était déjà bien complet. Ouais.
D'accord, donc faudra être au taquet ce dimanche à 18h. Alors les boss de Saint-Paul ont toujours très très bien fonctionné, mais il y a une limitation du nombre de participants, notamment parce que la base, la salle de Saint-Paul est très petite, hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc le départ était dans le bourg de Saint-Paul. Hein, donc si côté parking, c'est ballonné. Donc en cette saison, on peut pas se garer dans des prairies. Et, donc voilà, on utilise les parkings qui à disposition. Donc voilà, on est assez limité par rapport à ça, puisque ce qui en fait aussi un trail à taille humaine et qui plaît aussi, je pense.
C'est l'occasion d'évoquer les trailers Montcoutantais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre assos, Mathieu?
Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on est créé. Donc on est 70 membres à se retrouver le mardi et le jeudi à Montcoutant pour faire des entraînements. Donc on organise les bosses de Saint-Paul, on organise aussi au 14 juillet les 12 km de Pescalis. Et à côté de ça, on participe aux courses locales ou moins locales. On fait des courses, des trails, chercher un peu de difficultés en montagne, dans les Pyrénées ou dans les Alpes au courant de l'année.
Bon, alors pas d'entraînement le 14. Tout le monde est mobilisé. Tous les trailers sont bénévoles cette journée-là.
Ouais, tous les bénévoles, quasiment tous. Et puis pas d'entraînement, pas de course au calendrier non plus. Ce sera chez Saint-Paul à 100% jusqu'au week-end prochain. Ouais.
Les boss de Saint-Paul, c'est dans une semaine à Saint-Paul en Gâtine, en espérant qu'il fasse un peu meilleur qu'aujourd'hui, un temps gris. Est légèrement pluvieux ce 7 décembre, mais la pluie pourrait nous épargner cet après-midi. Profitez-en pour aller sur les marchés de Noël à Cerizay et Saint-Loup ce week-end, et puis bien sûr à profiter de toutes les animations du Téléthon encore ce dimanche. C'est la fin de cette émission. Patrice, merci de m'avoir accompagné ce soir. Je serai avec David pour 3 rendez-vous à partir de 18h, 18h30 et 19h. Bon dimanche.
Merci beaucoup Fabien Gazot pour ce SMD de ce 7 décembre, émission que vous allez pouvoir retrouver dans quelques minutes en podcast sur notre site colline-laradio.fr, ou alors autre possibilité, la rediff tout à l'heure à 13h. Très bon dimanche avec Colline. Lidl.